Bon après-midi à tous. Il faut dire que, avec le dernier chant que nous avons chanté, je disais avant le culte, je disais à tout le monde que par la grâce de Dieu, je me sentais prêt, ça va bien, pas stressé. Et là, quand on a chanté le dernier cantique, la vitesse à laquelle on l'a chanté, j'ai dit waouh, d'accord. Donc, bref. D'abord, j'aimerais remercier notre Seigneur, l'Éternel, pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir m'adresser à son peuple dans le rôle de prédicateur. J'invoque sa grâce afin qu'il me donne le courage d'être un porte-parole fidèle de son message. J'aimerais également remercier nos dirigeants pour la confiance qu'ils me démontrent à travers cette opportunité. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter à notre Église une série d'enseignements sur toute la loi et les prophètes qui sont résumés dans la Bible en 10 paroles, le décalogue, soit les 10 commandements. Mon désir est que notre Assemblée se familiarise avec les principes fondamentaux de toute la loi de l'Éternel notre Dieu et que nos cœurs en raffolent toujours plus, comme le psalmiste du psaume 119 de la Convocation. Donc nous allons lire ensemble la péricope où apparaît pour la première fois le décalogue dans la Bible. Ça se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Nous allons lire les versets 1 à 17. Écoutez maintenant les paroles du seul et vrai Dieu vivant. Exode 20, 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parole du Seigneur. Amen. Donc, mon message aujourd'hui se veut une introduction aux 10 commandements et aux principes fondamentaux de la loi de l'Éternel. J'ai intitulé le message « De A à Z, toute la loi et les prophètes ». J'aimerais commencer en vous partageant des informations scandaleuses par rapport à notre province. J'aimerais avertir les âmes sensibles pour ce qui suit. Selon une étude menée au Québec et publiée dans la revue scientifique américaine d'obstétrique et de gynécologie, entre le 1er avril 1989 et le 31 mars 2021, 13 777 bébés du deuxième trimestre, entre 15 et 29 semaines, ont été assassinés dans des hôpitaux par le moyen de l'avortement. Tristement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus déchirant. 11,2% de ces bébés, ce qui représente 1541 petits-enfants, ont survécu à ces tentatives de meurtre médical. Parmi les survivants, 385 d'entre eux ont été pris en charge aux soins intensifs. 86 ont reçu des soins palliatifs. Et les meurtriers ont laissé les 1100 autres mourir sans aucune intervention. L'étude a aussi révélé que le nombre de bébés survivants ces tentatives de meurtre médical sont passés d'environ 4 bébés sur 100 entre l'année 1989 et 2000 à 10 bébés sur 100 entre 2001 et 2010 et à près de 21 bébés sur 100 entre 2011 et 2021. En plus, ces assassinats médicaux du second trimestre ne cessent d'augmenter au Canada grâce à la technologie qui permet de détecter plus facilement les anomalies du développement chez les enfants du premier et second trimestre. Le but de l'étude était de déterminer la fréquence d'échec de ces cruelles tentatives de meurtre et les trouvailles suggèrent que les injections mortelles sont plus efficaces comme méthode d'infanticide que la provocation artificielle de fausses couches. Absolument inhumain comme détail. Mais il est important d'exposer les abominations de notre société dans toute leur laideur et en langage clair. Particulièrement pour comprendre l'importance et la pertinence de la loi de Dieu et de l'Évangile en dehors de nos vies personnelles, de nos églises et nos propres cœurs. Quelle est la fin de l'homme ? Le petit catéchisme de Westminster enseigne à cette toute première question que la fin, le but principal de l'homme, est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés, et c'est ce qui souligne la pertinence de cette nouvelle série. J'ai été très reconnaissant envers le Seigneur de voir la manière dont l'Esprit a œuvré en alignant la prédication de notre pasteur Christian dimanche dernier, qui mettait beaucoup l'accent sur la loi de Dieu juste avant la mienne. Dans le livre « Manuel du prédicateur » de Florent Varac, justement, que Christian m'a prêté pour m'encadrer, dans la phase de préparation, on suggère de résumer le passage dont traite le message en quelques phrases. Idéalement en une phrase, mais aussi possible en quelques phrases. Donc, par l'œuvre de l'Esprit, encore une fois, j'ai réussi à trouver les phrases qui résument parfaitement les 10 commandements. Et croyez-le ou non, cette fois-ci, c'était par révélation directe. Les phrases sont infaillibles. Je répète, ce sont des phrases que Dieu m'a révélées de sa bouche. Ça ne provient pas de mon imagination. Et j'ai la pleine assurance qu'elles sont réellement infaillibles. Et j'ai retranscrit. Ainsi parle l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et oui, il s'agit bel et bien de la synthèse inspirée, faite par Dieu lui-même, retrouvée en Matthieu 22, 37 à 40. Donc vous aussi, vous avez accès à cette révélation directe. Donc, j'espère ne pas trop vous avoir fait suer, parce que si ça avait mal tourné, ça aurait pu être la dernière fois que je prêche à la Trinité. Bref, la merveille dans tout ça, et que ces phrases infaillibles résument non seulement parfaitement les 10 commandements, mais plus encore, toute la loi et les prophètes. de A à Z. Toute la loi et les prophètes nous enseignent comment glorifier Dieu. En aimant entièrement l'Éternel d'abord et en aimant ensuite notre prochain comme nous-mêmes. L'expression « toute la loi et les prophètes » employée par Jésus fait référence à l'entièreté des Saintes Écritures. En Matthieu 22, versets 29 et 31b, un peu plus tôt, on lit « Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ?» Normalement, lorsqu'on lit, on lit ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais Jésus dit pourtant, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Ça signifie clairement que Jésus considère les lettres écrites de la Bible comme la parole même de Dieu. Et 2 Timothée 3, 16 et 17 le confirment également. C'est ce qui met fin à mon introduction, donc entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de la loi de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Selon la Bible, la loi est une révélation. Il s'agit de la première caractéristique majeure de la loi de Dieu. C'est une révélation, une parole divine qui est donnée à l'homme. C'est le terme « Torah » en hébreu qui est traduit par le mot « loi » en français. Torah signifie littéralement « instruction ». Donc la loi de Dieu ne se limite pas strictement aux stipulations de la loi de Moïse, résumées dans les 10 commandements. Selon la Bible, la loi de Dieu est un concept qui englobe toute parole et instruction divine dans leur entièreté. Un terme que je trouve merveilleux pour exprimer cette exhaustivité de la loi de Dieu est le mot composé « loi-parole » de l'anglais « law-word ». Donc l'essence de la loi de Dieu n'est pas sa forme, mais plutôt l'autorité divine et suprême qui l'accompagne. La loi est une révélation de l'Éternel, de sa sainteté et de sa justice. Par conséquent, en tant que chrétien, absolument rien par rapport à la loi, ne devrait nous faire peur ou ne devrait nous faire avoir honte devant les hommes, que ce soit des croyants, des athées ou qui que ce soit. Il est faux de penser que la loi était pour l'Ancien Testament seulement, mais la grâce pour le Nouveau Testament, parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'existe aucune contradiction entre la loi et la grâce. Au contraire, la loi présuppose la grâce et la miséricorde divine dans l'Ancien Testament comme le Nouveau. Retournons vers ce que nous dit Dieu en Exode 20, 2 et 3. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Entre ces deux phrases, on aurait pu mettre le connecteur logique « alors ». Le premier commandement est donné par Dieu en s'appuyant sur la réalité que l'Éternel, par sa grâce, ait fait d'Israël son peuple et par sa miséricorde ait délivré Israël de l'esclavage dans le pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il est absolument vital de le réaliser et de bien comprendre que Dieu donne des instructions auxquelles son peuple doit obéir en réponse à l'identité de l'Éternel, qui est Dieu, et par reconnaissance pour la grâce qu'il a déversée sur eux en premier, en se faisant leur Dieu et en les délivrant. Et ce Dieu libérateur manifeste davantage sa grâce en leur révélant sa loi et en leur instruisant de la garder. En Exode 19, 4 à 6, lorsque l'Éternel traite alliance avec Israël à travers Moïse, Dieu explique lui-même ce que je viens de vous dire en affirmant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. L'erreur des pharisiens du temps de Jésus était qu'ils considéraient la loi de Dieu comme médiatrice entre Dieu et les hommes. Mais Jésus, le seul et vrai médiateur entre Dieu et les hommes, a rejeté cette fausse compréhension. Il est venu pour confirmer, accomplir et rétablir la loi selon sa vraie fonction en tant que chemin et guide vers la sainteté qui est digne du royaume des cieux. Matthieu 5, 17 à 20 l'exprime très clairement. Je vais seulement vous lire le verset 19 par contre. Donc dans Matthieu 5, Jésus affirme: celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais peut-être que vous vous demandez, qu'en est-il des prophètes ? Tu parles de la loi, mais Jésus dit la loi et les prophètes. Alors, je vous renvoie la question. Christian n'a-t-il pas prêché dans les prophètes, dimanche dernier, sur le procès d'alliance de l'Éternel où il accuse Israël d'avoir rejeté sa loi en violant les 9e, 6e, 8e et 7e commandements par leurs mensonges, assassinats, vols et adultères, en Osée 4, verset 2? Bien sûr, la réponse est oui, pour ceux qui ont écouté le message. Par contre, le salut du Dieu vivant n'a jamais été obtenu par l'homme pour son obéissance à la loi. Et il en était de même pour Israël. Habacuc, qui était un prophète de l'Ancien Testament, de dire « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. » En Habacuc 2, verset 4. Et pour nous, chrétiens, qui sommes descendants d'Abraham en Christ Jésus, le Nouveau Testament nous dit en Éphésiens 2, versets 1 et 2, ainsi que 4 à 10, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les bonnes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. De la grâce et la miséricorde de Dieu en Christ Jésus proviennent notre délivrance du royaume de Satan et de la domination du péché. Dieu nous a fait renaître en Christ Jésus dans quel but ? Pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pour nous. Aimer Dieu et notre prochain sont de bonnes œuvres, des actes religieux. Et si vous me permettez une petite parenthèse, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos frères en Christ, et sœurs également, lorsqu'ils évangélisent, qui affirment avec de bonnes intentions, on n'est pas là pour vous prêcher une religion, on est là pour vous prêcher une relation. Mais c'est une fausse contradiction, c'est une fausse dichotomie. Le christianisme biblique est une religion. La différence avec ceux qui ne connaissent pas le Dieu vivant, c'est qu'ils pratiquent une religion morte. alors que nous, nous avons la religion vivante en Christ Jésus. Cette religion vivante, nous l'avons grâce à cette relation qui nous transforme, cette relation avec le Dieu vivant. Donc, une religion, c'est quoi? La religion, c'est une manière de voir le monde, une manière de vivre, de comprendre la réalité. Donc, le christianisme biblique est une religion. On le lit également dans Jacques. Donc, la religion est une manière de vivre. Et donc, lorsque nous proclamons la parole, nous proclamons aux perdus la bonne manière de vivre selon le Créateur. Donc, et cette bonne manière de vivre, cette manière de vivre transformée, provient de la relation avec le Dieu vivant. Mais grâce soit rendue à Dieu, il utilise des instruments imparfaits pour accomplir son œuvre parfaite. Ce qui met fin à ma petite parenthèse. Donc, je disais qu'aimer Dieu et notre prochain sont de bonnes œuvres, des actes religieux. C'est la raison pour laquelle obéir à ses commandements lui apporte de la gloire. Le Créateur de l'univers, le Dieu trinitaire révélé en trois personnes dans les Saintes Écritures, l'Éternel Père, Fils et Saint-Esprit, n'a qu'une parole et qu'une seule loi parce qu'il est un Dieu. En Dieu, il y a la loi et la grâce. Les deux sont inséparables. Le but de la grâce n'est pas de mettre la loi de côté, mais de la confirmer et de donner par l'Esprit la puissance à l'homme d'y obéir. Ézéchiel 36, 26, 27 le dit clairement. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit sur vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Par l'œuvre de grâce de son Esprit Saint, Dieu transforme nos cœurs afin que nous puissions obéir à sa loi parole avec empressement et avec joie. De A à Z, toute la loi et les prophètes nous enseignent comment glorifier Dieu, en aimant entièrement l'Éternel d'abord et en aimant ensuite notre prochain. On a donc vu premièrement que la loi de Dieu est une révélation de lui-même, de sa sainteté et de sa justice. Mais la nature de la loi de Dieu ne se limite pas là. Sa deuxième caractéristique majeure est qu'elle est une alliance. Notre passage des 10 commandements s'inscrit dans le contexte d'une alliance que l'Éternel traite avec Israël. Et plus tard, dans le livre d'Exode, l'Éternel écrira de son propre doigt les 10 paroles qui représentent l'entièreté de son alliance avec son peuple, Israël. Dans cette alliance, Dieu déclare sa suprême souveraineté et seigneurie sur son peuple, en leur donnant des instructions dans tous les aspects de leur vie, en commençant par leur cœur et aussi de la tête aux pieds, à l'extérieur. Donc, l'obéissance d'Israël devait non seulement être intérieure, mais aussi extérieure. Ce qui est cohérent avec la définition de ce qu'est une religion. Et ici, la vraie religion, parce qu'elle est avec le Dieu vivant. Mais remarquez aussi que les paroles d'alliance adressées à la nation d'Israël utilisent le pronom « tu »,« tu », »,« tu » dans chacun des 10 commandements. La deuxième personne du singulier. Ce n'est pas par accident, ni une mauvaise traduction. On voit la même chose dans la langue originale du texte. Ça met en évidence le fait que l'Éternel soit d'abord et avant tout un Dieu personnel. Donc même s'il traite alliance avec la nation tout entière, l'engagement est d'abord avec chaque individu de la nation. En d'autres mots, l'Éternel tient chaque individu personnellement responsable de lui obéir. Par conséquent, tous sont responsables si la nation désobéit, et tous ont le devoir d'invoquer le pardon de Dieu par la repentance et l'offrande des sacrifices avant l'incarnation de Christ. Par rapport à cette relation personnelle entre Dieu et chaque personne, en Jérémie 31, 33, 34b, de la Nouvelle Alliance, il est dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34b. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. La pertinence de la loi de Dieu en tant qu'alliance est bien importante pour notre époque. Il est vrai que l'Éternel n'a plus d'alliance nationale exclusive, comme avec l'ancien peuple d'Israël de nos jours, mais il a fait de l'Église un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, nous dit l'apôtre Pierre. Et à cette nation sainte, il a ordonné de baptiser toutes les nations au nom de l'Éternel et d'en faire des disciples, selon l'autorité de Jésus roi. Le psaume 33, verset 12a, s'exclame « Heureuse est la nation dont Yahweh est le Dieu ». Nous sommes particulièrement concernés en Amérique du Nord, au Canada comme aux États-Unis, en raison des fondements bibliques qui ont bâti ces grandes nations, qui étaient autrefois des flambeaux de liberté biblique et de réelle justice. Des atrocités comme celles que je vous ai présentées en introduction n'ont pas toujours existé au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Le meurtre des enfants dans le ventre de leur maman n'a pas toujours été légal et encore moins banal ou normal en Amérique du Nord. En ce qui a trait au concept de loi dans une nation, dans une société, il y a 5 éléments fondamentaux dont il faut être conscient si on veut avoir une compréhension biblique et réelle de n'importe quelle situation culturelle. Premier élément fondamental, la religion est toujours au cœur de la loi dans une société. La question vitale est simplement de savoir s'il s'agit de la religion du seul et vrai Dieu vivant, Yahweh, ou d'une fausse religion, parce que les hommes, les humains, ont été créés à l'état de vrais adorateurs au commencement, mais sont tous devenus des adorateurs idolâtres après la chute, après l'entrée du péché dans le monde. Deuxième élément fondamental, la source de loi dans une société est toujours le Dieu de cette société. Si le gouvernement est la source de loi, le Dieu de la société est le gouvernement. Si le Coran est la source de loi, le Dieu de la société est le faux Dieu Allah, et ainsi de suite. Au départ, aux États-Unis et au Canada, les lois reflétaient les principes et la moralité biblique. La neutralité n'existe pas. Christ nous dit qu'on est avec ou contre lui. Le terrain neutre est une illusion qui est présentée aux chrétiens pour qu'ils se relâchent et qu'ils ne proclament pas l'évangile et la loi de Dieu partout où ils mettent les pieds. C'est un piège de Satan et il faut que nous soyons conscients de ce dessein. Le troisième élément fondamental, les changements de loi dans une société expriment toujours un changement de religion caché ou affiché. En Amérique du Nord, par exemple, le changement de religion s'est fait de manière subtile et progressive tout au long des années 1900. Et au XXIe siècle, la révolution contre l'Éternel est entièrement affichée, est entièrement assumée. Il s'assume carrément. C'est l'humanisme séculier, plus familièrement connu sous le nom de laïcité institutionnalisée, qui est ouvertement la nouvelle religion de notre société. Quatrième élément fondamental, la religion ne peut jamais être déracinée dans une société. Une église peut être mise de côté ou rejetée. Une nouvelle religion peut en remplacer une autre, mais il y a toujours une religion qui donne à une société sa direction. La question est de savoir si c'est la vraie religion, le christianisme biblique, ou une fausse religion avec un faux dieu démoniaque ou l'homme aux commandes. Puis finalement, le cinquième élément fondamental dont nous devons être conscients, si on veut avoir une compréhension biblique et réelle de n'importe quelle situation culturelle, est que le système de loi dans une société ne peut jamais encourager une réelle tolérance pour une autre religion que celle qui guide les lois du système actuel. Lorsqu'une société tolère une ou toutes sortes d'autres religions, elle commet une forme de suicide culturel, parce que les autres religions vont tôt ou tard tenter de détruire les fondements originaux, religieux originaux de leur nation d'accueil et prendre le dessus. Et c'est ce qui arrive en Angleterre, au Canada, aux États-Unis et même en France. Donc, si vous me permettez, j'aimerais vous partager une citation à ce sujet d'un chrétien tiré d'un communiqué d'un chrétien du nom de Ron Gray. Il dit ceci par rapport au Canada. Notre héritage de démocratie parlementaire découle de la Magna Carta de 1215. Son idée centrale, qu'il existe une loi supérieure à laquelle même la couronne doit obéir, est un fondement fondamental de la démocratie telle que nous la connaissons. Et la loi supérieure à laquelle la Magna Carta se reporte est implicitement le décalogue trouvé dans la Bible. Le Dieu auquel se réfère le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés est aussi clairement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible. À la fin des conférences de la Confédération du Canada, les 33 pères de la Confédération ont unanimement nommé ce pays le « Dominion du Canada », en référence au psaume 72, verset 8, qui dit « Il, parlant du Dieu de la Bible, aura la domination aussi d'un océan à l'autre. » Le nom officiel du Canada est toujours le « Dominion du Canada ». Les bâtiments de notre Parlement regorgent d'inscriptions, de citations de la Bible. Sur le portail est de la Tour de la Paix, il dominera aussi d'un océan à l'autre, psaume 72, 8. Sur le portail sud, donne au roi tes jugements, ô Dieu, et ta justice au fils du roi, psaume 72, 1. Par-dessus la fenêtre occidentale, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Il est également à noter que ce dernier passage, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, pourrait tout aussi justement être traduit là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc tout ça pour dire que tout le déclin de l'Occident a commencé avec la violation du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au résumé, l'Église de Jésus-Roi en Amérique du Nord s'est dangereusement relâchée dans la mission de faire des nations des disciples en leur enseignant à observer tout ce que Christ l'Éternel a commandé. L'Église a enfreint l'alliance qu'est la loi parole de Dieu et les nations où la vraie Église du Christ avait une ferme présence par le passé en paient amèrement les conséquences aujourd'hui. De A à Z, toute la loi et les prophètes nous enseignent comment aimer Dieu, en gardant l'alliance de l'Éternel. La troisième caractéristique majeure de la loi parole de l'Éternel est qu'elle est l'outil qu'il a donné à son peuple pour exercer la domination sous la gouverne de Dieu. Que ce soit avec Adam dans le jardin d'Éden, avec Israël dans le désert ou son peuple en Christ Jésus, l'Église dans la Nouvelle Alliance, la mission de l'homme a toujours été de soumettre et dominer sur toute la terre sous la gouverne de Dieu, et non selon l'imagination ou l'intuition humaine, ou même une supposée loi naturelle. Parce que la nature n'a pas intrinsèquement une loi, il y a une loi au-dessus de la nature qui est donnée par le Créateur de la nature, le Dieu de la Bible. Donc, sous la gouverne de Dieu, point. Rien d'autre. Dieu est souverain sur toute chose. Il se soucie d'absolument toute chose, dans leurs moindres détails. Et il veut que nous discernions sa volonté agréable et parfaite. Par sa volonté agréable et parfaite, Dieu ne parle pas de son décret éternel et divin. Ça renvoie aux choses secrètes et Deutéronome 29, 29 nous dit que les choses secrètes appartiennent à l'Éternel. Mais lorsqu'il parle de sa volonté agréable et parfaite, il parle de sa volonté révélée quant à notre moralité, notre éthique, notre conduite. L'Éternel Dieu est le législateur de l'univers et il a envoyé l'Éternel, son Fils, Jésus, le roi des rois, seigneur des seigneurs, pour incarner, confirmer, accomplir la loi du royaume sur terre. L'Éternel Esprit Saint nous a laissé les saintes Écritures qui témoignent de Christ le Rédempteur, afin que nous croyions en lui, que nous proclamions son évangile, son règne et tout le conseil de Dieu dans sa loi parole, afin que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi que nous aimons l'Éternel d'abord et entièrement quant à notre moralité, notre éthique, notre conduite. Un tel amour pour Dieu nous est seulement possible parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour, comme Israël, est une réponse à ce qu'il a d'abord fait, similairement à Israël qu'il a choisi par le passé, non pas pour ce qu'il y avait en eux, mais parce que lui, il aimait ce peuple, parce qu'il a voulu tenir la promesse qu'il avait faite à leur père, dit Deutéronome 7, 6 et 8. Il en est de même pour nous, nous qui nous repentons continuellement et plaçons continuellement notre croyance et foi en Christ Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, dit Romains 5, 8. Comme avec l'ancien Israël, Dieu a tout initié avec nous, qui sommes la nouvelle Israël, l'épouse de Christ partout à travers le monde, l'Église. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, nous dit 1 Jean 4, 19. Et ce même Jean, dans son évangile, nous rapporte les paroles de Jésus disant « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » en Jean 14, 15. Encore une fois, de A à Z, toute la loi et les prophètes nous enseigne comment aimer Dieu, en exerçant la domination sur sa création, selon sa loi parole. En conclusion, quelles sont les applications par rapport au fait que la loi de Dieu soit une révélation de sa justice, que la loi de Dieu soit une alliance, que la loi de Dieu soit l'outil divin de domination sous la gouverne de l'Éternel? En réalité, les applications s'étendent à absolument toute notre vie. Du plus profond de nos cœurs, en passant par nos pensées, jusqu'aux tâches quotidiennes qui nous semblent les plus insignifiantes. Le but de notre vie ne devrait pas être de nous faire plaisir ou de trouver notre voie, de nous faire un nom ici-bas ou de marquer l'histoire, mais de connaître, croire, d'obéir et de mieux servir le Seigneur en trouvant notre vocation en Christ. Comme l'Éternel règne et domine sur nous, en tant que co-héritiers du royaume, nous devrions régner et dominer dans notre vocation en Christ, sous la gouverne de Dieu. Par notre sainte vocation en Christ Jésus et la toute-puissance de l'Esprit qui nous habite, nous sommes appelés à dominer sous la gouverne de Dieu. Et le tout commence par notre domination de notre propre péché qui pollue toutes choses, nos paroles, nos pensées, nos actions. En nous appuyant sur la grâce de l'Esprit Saint, nous devons dominer sur toutes choses selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Dominer sur toute chose sous la gouverne de Dieu signifie de bien étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer consciemment afin qu'elle gouverne sur toute chose, d'abord sur nous-mêmes individuellement, nos familles ensuite, nos églises et selon le temps de Dieu et ses promesses, la société et la terre entière. Nos premiers disciples sont les membres de nos familles respectives, c'est eux qui sont prioritaires. Cependant, le mandat missionnaire qu'est la grande commission de Jésus-Roi à son Église inclut le mandat culturel donné à Adam dans le jardin d'Éden. Ne laissons pas le péché du monde déchu nous décourager, car Dieu est en train de renouveler et réconcilier toutes choses par la croix, par le sang de la croix de son Fils Jésus-Christ. Par la foi, nous devons obéir. Par son esprit qui nous habite, Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous rejetons la loi de l'Éternel, nous rejetons la loi du royaume, nous rejetons la venue du même règne pour lequel nous prions dans le Notre Père. Et pour cela, notre récompense ne peut être que le chaos, la tyrannie des gouvernements humains, que ce soit dans la famille, dans l'Église, dans l'État. Et nous invitons la colère de Dieu. Vivons l'Évangile selon notre appel prophétique. Marions-nous, fondons des familles, instruisons nos enfants selon une vision du monde explicitement chrétienne. Faisons des disciples, implantons plus d'églises et nous verrons l'Éternel en son temps récompenser notre fidélité. La parole de Dieu n'est pas un oreiller qui nous appelle à nous prélasser ou à la passivité. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui doit être maniée courageusement par les guerriers de l'Éternel des armées. La parole de Dieu est sa puissance et le moyen par lequel il veut se glorifier. Et pour vous qui ne connaissez pas ce si beau salut en Jésus, cette relation personnelle avec Dieu, cette vie transformée par l'Esprit. Sachez que les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Reconnaissez devant Dieu que vous êtes des pécheurs. Abandonnez vos styles de vie, votre style de vie de péché et croyez en l'Évangile avec foi. Car seul Jésus sauve, et il sauve parfaitement tous ceux qui viennent sincèrement à lui. De A à Z, toute la loi parole de notre Seigneur nous enseigne comment glorifier Dieu, en aimant entièrement l'Éternel d'abord, et en aimant ensuite notre prochain comme nous-mêmes. Au résumé, les 10 commandements de l'Ancien Testament représente donc la fondation, la pierre angulaire de cette sainte vocation qui nous a été adressée en Christ Jésus, à la louange de la glorieuse grâce de notre Père qui est aux cieux. Amen. Ô Éternel, Dieu trois fois saint, nous te glorifions, Saint-Père, pour ta loi parole, pour cette grâce que tu nous as donnée, cette grâce que tu nous as révélée, ce moyen par lequel tu nous sanctifies, que tu illumines nos pas, notre sentier, Seigneur. Te prions, Seigneur, je te prie, ô Dieu, que cette parole puisse rester gravé dans nos cœurs, que nous soyons stimulés à l'étudier davantage, à la chérir et à l'appliquer. L'appliquer à nos cœurs avec diligence, ô Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous la sagesse. Donne-nous le courage, ô Dieu, de proclamer ton évangile, tout ton conseil à tout homme. À ta plus grande gloire, nous te prions, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.